Actu SF, les podcasts.
Du continent? Est-ce qu'on parle de l'Afrique noire? Est-ce qu'on parle? Il n'y a pas une je crois, il y a un problème au niveau de la définition quand on parle d'Afrique. C'est que ça englobe l'Afrique du Nord, ça englobe le reste de l'Afrique. C'est une entité géographique. C'est vrai que c'est pas une entité culturelle. Enfin, c'est pas, il n'y a pas une entité culturelle, mais ça, c'est partout. Donc, quand on parle d'Afrique, on parle du continent. C'est ma vision des choses. C'est mon approche. Dans ce travail, l'Afrique est abordée en tant qu'entité géographique, donc, et non en tant que concept idéologique. Alors, mise au point étymologique, on a les deux concepts, utopie et dystopie. Utopie, dans la formation étymologique, est formée du préfixe « u » qui renvoie au nom « lieu » et de « topos »,« lieu ». « Dys » renvoie à enfer et « topos » renvoie à « lieu ». Donc, c'est un lieu infernal qui est déjà proposé à travers la formation étymologique du mot « dystopie ». En arabe, il y a, parce qu'en Afrique du Nord, on a tendance à utiliser des fois, non pas l'utopie, enfin, il y a deux façons d'utiliser utopie, soit la transcription, on dit aliotopia, donc on prend le terme tel qu'il est, on essaye de le traduire en le transcrivant, et il y a une traduction qui a été faite, c'est atubawiya. Alors, Atubawiya est un récent néologisme qui a été créé à partir du mot Touba, qui renvoie en arabe au nom d'un arbre au paradis musulman. Donc, celui qui a inventé le terme, il s'est inspiré d'un terme qui existe. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci.
Communication importante, c'est pour la pièce en anglais que vous avez dit.
Et donc, le mot Touba renvoie, je crois que c'est très intelligent au niveau de la formation de ce néologisme. Alors, on a un concept proche d'utopie et qui est vraiment très ancien, c'est le concept de la cité vertueuse, Al-Madina al-Fadila, donc imaginé par Al-Farabi au Xe siècle dans son essai philosophique « Idée des habitants de la cité vertueuse ». Alors, hier, je vous ai parlé de quelques utopies et j'allais revenir sur ces utopies-là. Alors, la nouvelle ère de l'auteur égyptien Edib Isaac, c'est une œuvre qui a été éditée en 1879, c'est un récit utopique qui passe aussi par le rêve. Donc, il y a toute une tradition d'écriture utopique qui passe par le rêve, pour imaginer un monde meilleur et met en relief les travers du pouvoir ottoman oppressif. Il raconte l'histoire d'un sage qui s'endort profondément, préoccupé par l'état de décadence arabe et la corruption politique et sociale. Au cours de son sommeil, un rêve étrange l'emporte à une époque future où le peuple se révolte contre les Ottomans avec l'appui de l'armée. La famille royale est chassée et un groupe de sages, choisi parmi le peuple, prend les commandes du pouvoir ayant pour devise l'égalité et la liberté. Les hommes, je cite, « les hommes aussi différents soient-ils, sont selon les lois de la nature semblables. La nature leur a doté les possibilités suffisantes pour subsister et par conséquent est naturel qu'ils soient autonomes et libres. Personne ne doit se soumettre à l'autre. Au contraire, chaque être humain a son libre arbitre. » Donc c'est un extrait de cet ouvrage. En 1890, on a publié dans le journal francophone Terre d'Humane le premier extrait d'un récit de voyage original, utopique, Voyage au pays des femmes, qui retrace les mésaventures de Mola Abbès, Français Vie, et de ses compagnons français au pays des femmes. L'auteur de ce récit de voyage est Ismail Kazaprinsky, donc, et qui est un réformateur musulman turco-tatar. Voyage au pays des femmes, mais il a, comment dire, il a vécu une bonne partie de son histoire en Égypte, et son histoire se déroule en Afrique. Voyage au pays des femmes nous raconte l'histoire d'un voyage en Afrique, au Soudan plus précisément, au cours duquel les trois voyageurs, suite à une tempête de sable, se retrouvent dans une terre légendaire où les femmes ont instauré un régime féminin qui reprend à l'envers le fonctionnement des sociétés de cette époque. Et là, on retrouve les femmes qui font la guerre, les femmes qui vont travailler, et les hommes qui restent à la maison, ils ont les cheveux lents, etc. C'est vraiment, tout est inversé dans ce texte-là. Et d'ailleurs, en 1805, une nouvelle, Le rêve d'une sultane, est éditée de Ruqayya Shawaket, qui décrit exactement la même chose, un inversement de rôle qui permet de réfléchir donc sur les conditions de la femme et de d'émettre vraiment un regard critique. Et là, il y a un passage où c'est une femme qui visite cette cité où dominent les femmes, et elle pose la question comment est-ce que se fait-il que les hommes, qu'on ne voit pas d'hommes dans les rues ? Alors, elle a regardé l'autre, elle a regardé en lui disant, mais vous réfléchissez comme si vous étiez un homme qui a un rang inférieur. Nous, les femmes, on ne pense pas de cette manière-là. Nous, les femmes, on est mieux éduquées que les hommes. Nous, les femmes, on a fait une révolte pour pour arracher notre place dans la société. Et les hommes n'ont que ce qu'ils méritent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, un autre texte, « Religion, science et argent » ou « Les trois cités » de Farah Antoine, publié au Caire en 1803, qui décrit une cité imprégnée d'un socialisme utopique. C'est après un long voyage périlleux que Halim, le protagoniste du récit, arrive à la terre promise des humains, la cité idéale qui a été créée par le cheikh Souleymane Salaman, mais qui s'est dégradée et s'est subdivisée en trois cités, la cité de la religion, de la science et de l'argent. Les trois sages, ou cheikhs, transmettent leur savoir à Halim, le protagoniste du récit, donc, qui sera confié à la charge de rebâtir la cité de jadis sur de nouvelles bases, modernité oblige. Les débats qui animent les habitants des trois cités renferment beaucoup de références à Saint-Simon d'un côté, et de l'autre à Karl Marx et au socialisme révolutionnaire. Michel Assakal voyage très loin dans l'espace et dans le temps, en 1907, pour fonder sa cité utopique sur Vénus, où l'homme parvient à vaincre son imperfection et vivre pacifiquement dans la tolérance religieuse. Et là, c'est un thème qui sera récurrent, c'est qu'on cherche toujours dans les utopies presque, hein, c'est une leitmotiv, cette question d'une religion pacifiste, elle est vraiment traitée dans les utopies arabes. Le parallélisme est établi tout au long de l'œuvre. 12 discussions à propos des habitants de Vénus et de la Lune, donc c'est le titre de l'ouvrage, entre les habitants de Vénus et les habitants de la Terre, et ces discussions-là portent donc sur des idées de tolérance, de communication entre les êtres humains, etc. Moussa Salem a imaginé une remarquable utopie rêve, introduction à une utopie égyptienne. Et là, d'ailleurs, utopie dans le titre arabe, Muqaddima li Touba Misriya, donc l'auteur, il utilise le néologisme de Touba, qui nous projette pour la première fois vers le futur tout en mariant science et utopie. C'est la première fois que l'on emploie le terme arabe de Touba au cours d'un rêve lucide. Le narrateur se réveille dans un hôpital et se retrouve en l'an 3105. Il découvre que l'Égypte a beaucoup évolué. Les révolutions communistes ont amené au pouvoir une forme idéale de gouvernement. Le progrès de la science et de la technique ont mis fin à la famine en produisant de la nourriture industrialisée. Les ouvriers, à force de travailler collectivement, ont moins de travail et beaucoup plus de temps à consacrer à des plaisirs intellectuels et aux recherches scientifiques. Les femmes ont le même statut que les hommes et travaillent tout autant. Le gouvernement de Khémé, donc Khémé c'est le nom de la cité, est formé de 5 instances, législatives, juridiques, journalistiques, religieuses et exécutives. On passe à d'autres textes de Tawfiq al-Hakim, donc Le Monde Inconnu, je vous en ai parlé hier, et L'An Million. Mais puisque j'en ai parlé hier, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Alors, je passe donc au Continent perdu de l'auteur tunisien Sadak Rezki. Et donc, le monde décrit futuriste. Le lieu est un continent qui aurait existé quelque part sur Terre, un non-lieu par excellence, où s'est épanouie une cité radieuse, pacifique, et là encore, on retrouve cette réflexion, est très évoluée. Anasia n'est pas sans rappeler la cité vertueuse de Al-Farabi. On a le vainqueur du temps de Nihat Shalif en 1972. Le héros se voit projeté vers un monde futur qui lui permet d'entrevoir l'Égypte sous de nouveaux éclairages. Elle est désormais le nombril de la Terre et le cœur battant de la civilisation humaine. La langue arabe est devenue la langue officielle dans le monde et la paix est enfin instaurée. Et là encore, on retrouve une référence à la paix. Et ça, c'est vraiment une constante. Et enfin instaurée partout, entre tous les peuples. Le Seigneur du Champ des Épinards, 1882, de Moussa Sabri, l'auteur nous décrit une ville idéale entourée d'une cloche de verre qui a été conçue pour protéger les survivants humains des radiations mortelles suite à une guerre nucléaire dévastatrice. Des savants sont à la tête d'un comité suprême et central du pouvoir qui administre la vie sur Terre, ayant pour principal souci de concilier progrès et humanisme, pouvoir et justice. Le comité est secondé par 2 organismes, comité technocrate suprême et un cerveau électronique global qui se trouve dans une chambre qu'on appelle « temple ». Mais la présence d'un homme réfractaire qui refuse le système transforme l'utopie en dystopie, s'évade vers le dehors, mais finit par regretter sa dissidence. Donc la scène finale du roman nous le montre devant les portes fermées de la cité et rappelle cette image d'expulsion définitive d'Adam et Ève. De ce texte se dégage l'idée que l'homme serait le véritable instigateur de l'enfer terrestre, de la dystopie moderne. La dissidence est remise en cause, étant dépeinte comme acte irresponsable et fâcheux qui menace la cité. L'utopie militaire. Alors, l'utopie militaire. Oups, excusez-moi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, je dois retrouver. Alors, l'utopie militaire, je vous en ai parlé hier, c'est une forme bien spécifique sur le plan éditorial, même sur le plan du traitement narratif, etc., dans l'histoire de la science-fiction arabe. Mais elle a d'autres spécificités, c'est que c'est vraiment, ces textes s'inscrivent dans la lignée de ce qu'on pourrait appeler l'utopie militaire. Et l'utopie militaire, c'est un terme qui a été avancé par Jean Van Herp et pour qualifier une catégorie de textes. Et nous avons repris cette appellation parce que nous avons trouvé que c'était vraiment, que c'était vraiment proche du concept d'utopie militaire développé par Jean Van Herp. Alors, l'utopie militaire arabe est anti-expansionniste, à caractère défensif, qui raconte l'histoire perpétuelle d'une lutte continue pour préserver la cité utopique, l'Égypte, des menaces de l'extérieur, pays ennemi ou extraterrestre, et la liberté de l'Égypte et de la Terre entière et occasionnellement d'autres peuples extraterrestres. L'Égypte est devenue un pays très développé, un civisme envié et une richesse énuie. Alors, là par exemple, quelques extraits. La dictature n'est jamais éternelle. Un État autoritaire disparaît vite et un État juste reste jusqu'à la fin des temps. Ces despotes seront certainement vaincus. Le lieu des combats est souvent la Terre, parce qu'il s'agit d'une attaque extraterrestre et non d'une invasion égyptienne. Là, je donne quelques références. La lutte contre l'envahisseur s'accompagne d'une condamnation ferme de l'exploitation et des guerres colonialistes. Et là, j'ai fait une comparaison entre le space opéra et l'utopie militaire pour montrer que l'utopie militaire prend le contre-pied du space opéra. Le space opéra est expansionniste. C'est vraiment la conquête. On veut coloniser d'autres planètes. Et cette logique-là n'est pas du tout présente dans l'utopie militaire. C'est qu'on a notre cité et on veut la défendre à tout prix. On ne cherche pas à coloniser d'autres planètes ou d'autres peuples. On est là. On veut protéger cette cité vertueuse, enfin utopique. Nour, donc, qui est le personnage principal, agit suivant un code éthique, sauver les vies des innocents est son objectif principal, d'où le symbolisme de son nom, Nour, en arabe, signifie lumière. Dans les portes de la mort, Nour libère le peuple d'Adrika, mis sous le joug colonial des Surites. Il refuse de devenir leur roi et se contente de leur avoir appris le sens du mot « liberté ». La liberté, camarade, est un mot doté d'une sonorité magnifique. L'image de l'Américain conquérant dans le space opéra est refutée dans l'utopie militaire égyptienne, tout en se situant dans le même décor. Elle prend le contre-pied de l'idéologie véhiculée dans le space opéra. On se demande même si ces héros conquérants, états-uniens des années 50, ne s'avèrent pas les véritables ennemis combattus dans les utopies militaires, parce que oui, il y a des textes où l'on retrouve, parce que j'ai recensé les catégories des ennemis dans l'utopie militaire, et les Américains ont une belle part. Hein. Il y a les extraterrestres, il y a les Américains, il y a les Israéliens aussi, et donc c'est différentes catégories d'ennemis. En 2004, l'auteur tunisien Abdelaziz Belkhouja publie un remarquable texte utopique, 2003, Le retour de l'éléphant. Le roman s'ouvre sur la description de la République de Carthage en 2003. C'est l'avancée technologique qui assure à la cité sa configuration utopique et maintient la stabilité et la paix. L'utopie change de lieu pour résider en Afrique. La République de Carthage fleurit sur les décombres d'un vieux mythe pour ressusciter le rêve d'une cité parfaite qui rayonne sur le monde en apportant aux humains la sagesse et le savoir et non la violence et l'hégémonie. L'idéal présenté par la cité carthaginoise ne sert qu'à mesurer l'état de déchéance et la misère des peuples du Sud. Au bout de son voyage, un étudiant américain, John, débarque dans la République de Carthage pour poursuivre ses études. C'est à travers le regard de cet étranger que l'on découvre la cité utopique. Belkhouja a fait des Occidentaux des barbares et s'en dévalorisé à Vélie sur les frontières du Nouveau Monde, autant que le sont dans la réalité les ressortissants des pays sous-développés. La police des frontières est intransigeante. Un étranger anglais se fait refuser l'entrée à la République de Carthage, faute d'avoir une carte de séjour. Je cite, « Montrez-moi votre carte de séjour. » Le jeune Martin Smith Robert répond, « Mais je vais la faire après mon inscription. » « Sans carte de séjour, vous ne passez pas. C'est comme ça, et pas autrement. Vous n'allez pas faire la loi non plus. Vous êtes en République de Carthage ici. Pas sous. Au refoulé. » Le roman futuriste reflète à l'Occident l'image qui se fait de nos jours du tiers-monde. D'ailleurs, l'auteur plaque sur les personnages occidentaux certains stéréotypes qui se rattachent d'habitude aux immigrés du Sud. Ils sont des illettrés, incultes et mal organisés. Je cite, « Les Américains ne sont pas en odeur de sainteté. Ils ont mauvaise réputation. Ils ne tiennent pas parole et sont des roublards, faux. Beaucoup sont des voleurs et des intégristes. Et puis, ils ont le terrorisme dans le sang. Tout au long de l'œuvre, on s'établit un parallélisme permanent entre Carthage et les USA, le dedans et le dehors, le centre et la périphérie. Je cite, « Tu sais, là où je vis, il n'y a aucun espoir, aucun projet commun. Tout le monde ne pense qu'à l'argent. Les jeunes sont désorientés. Beaucoup d'entre eux se tournent vers la religion. Les églises sont surbookées. Quand je vois ici combien les gens ont le sens civique, comment les choses sont claires et la politique limpide, ici, vois-tu, l'État travaille pour le citoyen. Cet esprit-là n'existe pas chez nous. En Amérique, si tu n'es pas profiteur, si tu suis la voie normale, si tu ne joues pas le jeu de la corruption, tu crèves de faim. » Alors, vous voyez, il y a toujours cette comparaison, ici, là, chez nous, chez vous. Et d'ailleurs, on va retrouver presque la même chose, le même style, dans une œuvre de Abdelrahman Ouabiri, aux États-Unis d'Afrique, édité en 2008. La fondation des États-Unis d'Afrique prospère avec ses centres boursiers, ses mégalopoles, ses savants et ses artistes réputés, indifférentes au sort des milliers de réfugiés, de la sanglante et désolée Euramérique qui se presse à ses frontières ou viennent s'échouer sur les plages d'Alger et de Djerba. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à partir d'Alger et de Djerba qu'il y a tout ce mouvement massif d'immigrés qui cherchent à accéder à l'Europe. Et donc, il reprend la même chose, mais à l'inverse. Je cite, « Ce caucasien d'ethnie suisse parle un patois allemand et prétend qu'il a fui la violence et la famine à l'ère du jet et du net. Ces peuplades aux mœurs guerrières, aux coutumes barbares, aux gestes fourbes et incontrôlables, ne cessent de rasier les terres calcinées d'Auvergne. Ainsi, les nouveaux migrants propagent leur natalité galopante, leur vie millénaire, leur manque d'ambition, leur religion rétrograde, comme le protestantisme, le judaïsme ou le catholicisme, leur machisme ancestral, leurs maladies endémiques. En un mot, ils introduisent le tiers-monde directement dans la nue des États-Unis d'Afrique. Les hommes et les femmes se valent. La domination masculine que les religions contribuent à perpétués, volant en éclats, hibides pour les préjugés raciaux, politiques ou de toute autre nature. Donc ce sont des extraits pour montrer que tout le discours qui est actuellement émis sur les immigrés venant des pays africains est retourné. Et donc ce sont les immigrés européens qui sont taxés par les mêmes préjugés qui sont représentés de la même manière. Alors, on a une autre utopie Kiringaya, une utopie africaine de Mikresnik. L'action se déroule au 22e siècle. Les derniers représentants du peuple Kikuyu au Kenya, ceux qui ont refusé l'occidentalisation de leur mode de vie, décident de vivre sur une lointaine planète terraformée. Leur terre est identique à l'Afrique de l'Ouest avant la venue des Européens, à l'exception de toutes les espèces animales qui ont disparu. Donc, la petite communauté de traditionalistes s'installe au Kiringaya, leur Éden retrouvé. Leur guide spirituel, Kouriba, est narrateur des 8 histoires qui composent ce roman, est un Kikuyu qui a été éduqué en Europe, qui a rejeté la modernité. Les Kikuyu n'iront pas au bout du projet et finiront par revenir à la civilisation occidentale et par retrouver l'ordre normal des choses qu'ils refusaient pourtant. Alors, Et là, on voit que dans certaines utopies, le souffle dystopique est présent. On va voir quelques dystopies et ensuite on va essayer de vraiment de discuter cette problématique. Pourquoi écrire des dystopies? Pourquoi pas des utopies? Pour quelle raison l'auteur peut-il faire le choix d'écrire l'un ou l'autre genre? Le XXe siècle est probablement le plus fécond en vision d'enfer. Abdeslam al-Baqali, Mustafa Kilani, Wassini al-Arraj, Boualem Sansal affichent leurs inquiétudes quant à la possible évolution du monde vers des scénarios catastrophes. Ils cherchent à exprimer la crise dans un temps en crise, au despotisme, guerre, exploitation, dessinent les contours de la réalité sociale. Destruction du libre-arbitre, chaos, massacre, pollution et terrorisme, voilà les bribes d'un avenir désenchanté que nous proposent ces auteurs. Les attributs politiques et culturels arabes, je parle de l'Afrique du Nord, en revanche, jouent un rôle capital dans la construction de cet imaginaire que nourrit différentes crises politiques, idéologiques et identitaires. Autoritarisme marquant la politique arabe, notamment en Afrique du Nord, hégémonie politique et culturelle occidentale, conjuguée avec la crainte d'un regain éventuel de guerres impériales, menace du terrorisme. Le déluge bleu de l'auteur marocain Abdeslam el-Baqali, publié en 1986, nous décrit une utopie, mais vers la fin qui se transforme en dystopie. Des savants sceptiques quant à l'évolution future de l'humanité, qui maîtrise les moyens de sa propre destruction, se sont repliés dans cet endroit pour fonder le noyau d'une nouvelle civilisation. Ils ont choisi un nom symbolique pour leur utopie, El-Joudi, le nom de la montagne où le navire de Noé a échoué après avoir sauvé la vie sur Terre. Ce choix n'est pas dénué de sens, puisque les scientifiques qui veulent sauver l'humanité d'un déluge nucléaire s'identifient à Noé, qui a sauvé le monde de jadis du déluge maritime. Ces scientifiques ont mis au point une machine sophistiquée, Maav, création la plus parfaite de l'homme pour être le cerveau de la communauté. La machine va essayer de prendre le contrôle de la cité et pousse la communauté à exterminer le reste de l'humanité. La fin est ambiguë, la machine est détruite, mais l'humanité bascule vers un état primitif. Je cite, « Les haches et les lances brillaient dans les mains de cette horde sauvage. Il regarda leur visage, qui scintillait d'habitude d'intelligence et de sympathie, et se rendait compte qu'ils n'étaient plus les mêmes. De leurs yeux, toute lueur d'humanité avait disparu. » Et on ne comprend pas pourquoi il y a eu cette dégradation. Miroir des heures mortes, publié en Tunisie en 2004, de Mustafa Kilani, réfléchit l'éclat sombre d'un rêve nocturne. Dès le prologue, le narrateur prévient le lecteur qu'il s'agit d'un rêve prémonitoire qu'il est appelé à écrire. Je cite, « Les événements de ce roman se déroulent en l'an de 1725, après Jésus-Christ. Le rêve pourrait se concrétiser, ou plutôt sera concrétisé, et il est impossible de s'arrêter d'écrire. » Au cours de cette nuit pluvieuse d'un automne à venir, le narrateur assume sa totale responsabilité à transcrire ce qu'il entrevoit entre le sommeil et la réalité. État totalitaire qui, en l'an de 1725, enferme les peuples du Sud dans un territoire assiégé par des grilles électriques. L'enfermement se conjugue avec la pollution due aux déchets nucléaires que déposent les pays du Nord dans cet espace tiers-mondiste. La pollution prive les citoyens de l'air pur et les laisse dépendants de la part mensuelle d'air que rationne l'État sous forme de bouteilles d'oxygène. Et il faut juste dire que ceux qui n'arrivent pas émettent des avis ou des critiques à l'encontre de l'État, évidemment, sont privés de leur de l'oxygène et du coup ils meurent. Et on a toute une description des gens qui meurent dans les rues. Et ce qui est très très dystopique dans ce texte, c'est que le début c'est la fin et la fin c'est le début. Et donc on a ces deux titres dans le premier chapitre et dans le dernier, c'est une boucle, c'est un cercle fermé. Et il n'y a vraiment aucune lueur d'espoir. C'est un cercle fermé d'une manière hermétique et horrible. Alors, on a deux textes. 2084, La fin du monde de Boual Msansal, édité en 2015. Et L'histoire du dernier arabe, 2084 aussi, de Wassini Al-Araj, édité en 2011. Et là, ces deux textes, en fait, ce qu'ils ont de commun, c'est qu'ils sont... Les deux textes sont écrits par deux auteurs algériens. Les deux textes font référence à 2084. Et ce n'est pas pour rien. Il s'agit de deux dystopies vraiment fermées et hermétiques aussi. Et là, j'ai le texte de Wassini Al-Araj. Alors, ce texte qui est une dystopie extrêmement intéressante, mais... Je vais essayer de démettre des critiques juste après. Tourne aussi dans un cercle fermé, nous montrant le dernier arabe, le dernier savant arabe très très intelligent qui est capturé par les Américains pour qu'il achève un projet de recherche sur des mini-bombes nucléaires. Et il est amené à finir ce projet-là. Et une fois qu'il a terminé, il accède à l'extérieur. Et il découvre que toute la partie, tout le monde arabe vit dans un état de barbarie extrême. Il n'y a plus d'État, il n'y a que Daesh qui commande tout, mais vraiment tout le territoire. Et que même les Américains dans la citadelle qu'ils avaient dans cet espace du sud vont quitter, laisser cet espace livré à lui-même, livré à Daesh qui font des crimes terribles. Et la fin du roman, c'est vraiment terrible. C'est que il n'y a plus d'espoir. C'est un avenir. Sombre. Et la même chose pour 2084, La fin du monde de Boual Msansal. Il y a toute une polémique qui a été engagée en Algérie en accusant Boual Msansal d'avoir piqué des idées à Wassini Al-Araj. Mais en lisant les deux romans, on voit que les deux se complètent. C'est comme s'il s'agissait d'un premier tome et d'un deuxième tome. Ce texte de Wassini Al-Araj montre la cité de Daesh de l'extérieur, alors que Boual Msansal nous montre la cité de Daesh de l'intérieur. Mais ce qui est impressionnant, c'est la présence de cette référence à 2084. Et il y a certainement on peut interpréter ça, mais je veux revenir sur la question de ces deux dystopies. Hein. Alors, le même problème qu'hier, j'aurais aimé vous montrer des séquences vidéo. Il y a un entretien avec Nandi Okorafor qui est vraiment intéressant, qui parle donc de l'imaginaire futur africain qui est plus ou moins utopique. Et un court-métrage, Pamzi, c'est une dystopie écologique. C'est un court métrage de 10 minutes à peu près. Clic, clic, boum, c'est une dystopie qui parle de Daesh. Court métrage sur l'immigration inversée de 7 minutes, je crois, où l'on montre la police des frontières, une femme tunisienne. Dans le territoire tunisien, il y a les immigrés qui viennent et elle doit trier, doit faire le tri, qui peut accéder à la nouvelle terre promise, etc. Donc c'est vraiment un verset qui montre la Tunisie en 2045. Et film, un extrait, je voulais vous montrer un extrait du film Africa Paradise, où l'on retrouve justement cette idée d'immigration inversée. Alors, ma conclusion, elle est longue, et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur certaines choses. Ces romans véhiculent des rêves et des espoirs, mais aussi du dégoût et du désenchantement. Ils transforment le pays, par la grâce de la fiction, en quelque chose de meilleur, en un lieu utopique. Mais justement, ne faut-il pas davantage d'utopie pour que le monde change? Moi, la question que je me pose actuellement, pourquoi écrit-on autant de mondes fermés? Si on essaye de questionner les utopies, le rapport que l'utopie peut entretenir avec la réalité, non pas en tant qu'utopie réalisable, mais en tant que possible, en tant que possibilité de transformation. Alors, ce qui me révolte dans les textes dystopiques, c'est qu'on ne donne pas de possibilité de résistance, on ne donne pas de possibilité de changement. Et à mon sens, il faudrait réfléchir à ce que les auteurs puissent plus écrire des utopies que des dystopies. Et il y a un auteur français qui m'a un jour, enfin, à qui j'ai posé la question suivante, pourquoi vous n'écrivez plus de dystopies? Alors il m'a répondu en disant, je me suis rendu compte que le monde n'a plus besoin de dystopies. Ça m'a étonnée au départ, mais en raisonnant, quelques années plus tard, je me suis dit oui. Pourquoi continue-t-on à écrire des dystopies? Si on peut vraiment faire des critiques à travers les utopies et en même temps donner des alternatives, donner d'autres possibilités, pourquoi? Alors, écrire et rêver un monde meilleur ne traduit-il pas l'envie de vouloir concrétiser la cité vertueuse, le paradis d'ici-bas? N'est-ce pas là un message fort contre les mouvements islamistes et millénaristes qui font du paradis un attribut céleste auquel l'humble individu du monde matériel ne pourra jamais accéder? Déjà, écrire des utopies, c'est un acte de résistance. Si l'utopie, et là, un extrait vraiment très très important, si l'utopie est à la fois le signe d'un espoir, d'un idéal et d'une alternative au réel, elle constitue aussi, selon les propos de Nana Atouba, un modèle critique. L'utopie est promesse d'avenir, désir d'avenir. Elle n'est pas seulement une fuite dans l'imaginaire, elle est une incarnation, une prédiction des temps futurs, comme le dit Raymond Mbassi. Donc c'est un extrait d'un recueil de textes, Utopie littéraire, création d'un monde nouveau. Elle peut dynamiser l'utopie, hein, elle peut dynamiser tous les autres domaines, puisqu'elle s'en nourrit. C'est cela qui fait la beauté de l'imaginaire. Et donc, ce sont les propos de Sami Chak. Écrire et imaginer un monde meilleur est un acte de résistance contre le dogmatisme et contre l'obscurantisme, qui constitue la pierre angulaire de l'enfer terrestre. La fiction a le pouvoir de métamorphoser le lieu. Mais la littérature peut-elle changer le monde, transformer réellement le lieu? La plume trace-t-elle le contour de notre monde tel qu'il pourrait être, tel qu'il sera peut-être? Soyons utopiques pour joindre l'esprit du genre qui est avant tout le songe de l'homme assailli par la misère morale et matérielle qui l'entoure et voudrait l'engloutir. C'est la tentative de sortir le regard de la trivialité quotidienne pour le porter vers de lointaines régions de l'idéal, pour y construire la cité nouvelle des justes et des parfaits. Fin de citation. Et juste avant de clôturer cette communication, j'enchaîne avec cette même idée. Et si on fait la comparaison entre l'apport des utopies et l'apport des dystopies, on peut avoir une conclusion, c'est que au XVIe siècle, du XVIe au XIXe siècle, il y a eu un mouvement massif de, je parle en Occident, d'écriture utopique qui a été concomitante avec l'évolution de la société, avec l'évolution des consciences. Et aujourd'hui, à partir du 19e, 20e, 21e siècle, on a beaucoup plus de dystopies et on voit que le monde va vraiment vers quelque chose de négatif. C'est comme si, je ne prétends pas dire que la littérature conditionne le réel, mais peut contribuer à le faire changer. Parce que la littérature peut contribuer à changer les consciences, peut, comment dire, instaurer ce sens critique, mais en créant des alternatives. Et non pas « je critique pour critiquer, je donne à voir un monde fermé, aucun espoir ». Moi, comment dire, ça m'a révolté de lire les deux textes, donc les deux 2084, parce que la fin, elle est vraiment, très sombre. Et moi, en tant que lecteur, je me demande, oui, d'accord, l'auteur, il a écrit ça, mais pourquoi ? Pour me dire que le monde, il risque d'être encore pire. Oui, mais y a-t-il d'alternative ? Si on va droit vers ça, sans avoir d'alternative, sans avoir d'utopie, des utopies à côté, sans avoir des idées, des sociétés à construire, sans avoir un modèle à suivre. Pourquoi pas ? Il y a des... Lorsqu'on écrit des utopies, c'est pas forcément pour inculquer un modèle, mais pour montrer au lecteur que la possibilité du changement existe, que les alternatives existent. Voilà, je vous remercie. C'était la fin de ma communication. Si vous avez des questions.
J'ai juste une remarque.
Oui.
Quand vous parlez d'immigration à l'antenne, oui. Je vais vous raconter une petite histoire de ma famille. Moi, je suis d'origine suisse. Vraiment un pays qui est réputé pour son immigration. Pourtant, une partie de ma famille a quitté la Suisse en 1870 à cause de la famine. Ça paraît bizarre de raconter ça.
Oui.
Et elle est allée s'installer au Brésil. En fait, en échange de... Ils ont perdu leur nationalité suisse, en échange de terres, parce que le gouvernement brésilien avait des terres, mais
oui, mais ce qui me révolte, c'est que dans ces dystopies-là, la résistance n'existe plus du tout. Et c'est ce qui me révolte. Et,
c'est des exutoires, c'est pour montrer vraiment le...
Mais quelle est l'utilité ?
Après, ça peut pousser les gens à se révolter justement en disant, on arrive à ça, donc on peut faire quelque chose, et ça peut les pousser à réagir.
Moi, j'avais pensé à ça au début, parce que j'ai quand même mis plusieurs années à étudier les dystopies. Mais je suis arrivée à dire que, après tout le travail de recherche que j'ai mené sur les dystopies, j'ai pu, en pensant que oui, les dystopies pouvaient avoir cette alternative-là, ça veut dire créer une sorte de résistance intellectuelle, montrer que ces monstres, voilà à quoi on pourrait arriver si on ne résiste pas. Mais... aujourd'hui, c'est vraiment très personnel, j'ai tendance à me dire que j'ai peut-être fait fausse route dans tout le chemin de ma recherche et que peut-être la véritable résistance se situe du côté des écrits utopiques et non pas des écrits dystopiques. C'est ce thème qui me travaille actuellement et je suis en train d'écrire quelque chose là-dessus.
En fait, après, les auteurs que j'entends dire, ils ne disent pas la même chose que vous. Pour eux, c'est ennuyeux l'utopie parce que dans un monde heureux qui fonctionne bien, il n'y a rien à raconter. Alors, dans une dystopie, on a plein de choses à raconter.
Ça, c'est le point de vue des Occidentaux.
Parce
qu'on a l'impression que c'est une utopie réalisée en Occident. Alors que dans les pays du Sud, c'est qu'on vit la dystopie, enfin la dystopie, les mondes vraiment qui sont extrêmement... ou qui vivent dans des situations économiques, politiques, etc., de manière très polyvalente et instable. Et peut-être qu'il s'agit de deux regards différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'auteur, en Occident, ou en Europe, ou en Amérique, il porte un regard critique par rapport à l'utopie, oui, mais bon, on n'en a vraiment rien à cirer. Alors que moi, actuellement, parce que je ressors des pays du Sud, je vois son importance. Et peut-être pour préparer une émergence positive des sociétés futures, il faudrait que les auteurs écrivent beaucoup plus d'utopie que de dystopie. On n'est pas dans les mêmes contextes, on n'est pas dans la même réflexion. Et peut-être que les auteurs émanant de l'Europe ont cette vision-là, mais je crois que non, que ce n'est pas la même approche.
Parce que les auteurs du Sud, ils écrivent beaucoup de dystopie.
Oui, beaucoup, beaucoup de dystopie. Et ça me permet d'avoir toute une réflexion là-dessus, le pourquoi. La littérature, je partage l'idée que la littérature ne fait pas partie de l'art pour l'art. La littérature, elle a un rôle à jouer dans la société. Et il y a une phrase qui m'a marquée de Jean-Paul Sartre, une issue, ça s'invente. On ne peut pas donner à lire des mondes totalement fermés, sans aucune possibilité, sans aucune lumière. Mais pourquoi écrire dans ce cas, vraiment, pourquoi écrire ? Ouais. Donc, ça ne peut pas contribuer à Oui, il y a Anne Staquet en Belgique qui a écrit un texte très intéressant, Les utopies subversives, ou les utopies des alternatives, la littérature des alternatives, je crois, c'est ça le titre. Et elle fait toute une réflexion sur les écrits utopiques, sur leur importance dans la construction des sociétés, et que les dystopies jouent justement sur les peurs, et que en jouant sur la peur, on ne pourra pas donner à voir un monde en construction. C'est un monde fini, c'est un monde fait, c'est un monde qui est voué à l'échec, donc c'est un monde vraiment fermé et sombre. Par contre, les utopies, ça donne à voir un monde ouvert. C'est pas l'utopie, non pas en tant que modèle qui pourrait être appliqué, mais en tant que possibilité de créer autre chose.